Bienvenue tout le monde sur la POC, édition du 26 août 2020. Et enfin, la saison du Canadien est terminée. Je dis enfin, là, mais c'est comme, c'est pas normal. Au mois d'août, ça n'a pas de bon sens. Je m'y fais pas encore. Je vais gagner ton animateur. Et avec moi cette semaine, Nicolas Desrosiers.
Allô, allô.
Eduardo Ponce.
Et
Sylvain Rioux.
Hello, hello!
Alignement complet pour cet épisode. Bilan de la saison du Canadien de Montréal. Je veux vous demander une question qui est quand même cruciale. Pour vous, est-ce que la saison, là, puis je parle de tout au complet, là, tout le hockey qui s'est joué en 2019-2020 pour le Canadien, est-ce qu'on peut dire que c'est un succès ou que ce n'est pas un? Nicolas?
C'est dur.
C'est une réussite, cette saison-là.
Je pourrais pas mettre un mot définitif. Sincèrement, avant les séries, je te dirais que c'était négatif. Avec les séries actuelles, je dirais que c'est positif autant parce que, sincèrement, je trouve que le futur y est beau pour le Canadien. Je ne sais pas si vous autres vous êtes d'accord avec ça. Vous êtes plus pessimiste que moi, mais moi, je trouve que l'avenir est quand même beau. Mais d'un autre côté, ce qui est intéressant, c'est que ça a permis de mettre les cartes sur la table, à savoir qui qu'on pourrait peut-être bouger dans l'effectif. Selon moi, c'est un positif. Là. Entre autres, je parle de Domi, je parle de Tatar. Peut-être que ça permettrait de bouger quelques pions pour aller chercher d'autres qui pourraient être plus efficaces dans notre line-up. Je te dirais qu'avec les séries, au niveau juste séries, je dirais que c'est positif. Là.
Eduardo?
Ah, écoute, je suis déchiré là-dessus. Parce que si la saison avait fini pas de playoff comme ça avait été fait, ben Bergevin aurait eu un pas de plus vers la porte de sortie. Mais avec ça, il est comme un pas de moins, un demi-pas moins en bas de la porte de sortie. Par contre, ça a permis justement, comme Nicolas l'a dit, de voir qui peut faire quoi dans une situation de playoff. Ça a permis de un peu démasquer un joueur comme Max Domi, tu sais. Que lui, on pensait qu'avec son style de jeu, ça serait un gars de playoff. Ça a permis aussi à Suzuki de démontrer qu'est-ce qu'il est capable de faire pour de vrai dans une situation de playoff. Ça a juste amené un pas de plus à lui dans son développement puis dans la façon où est-ce qu'on peut le placer dans ton équipe. Kotkaniemi, my God, c'était qui ce joueur-là?
C'est pas celui qu'on a vu des deux dernières saisons, là.
Lui, je suspecte qu'il est rendu sa sauce avec d'aller voir le docteur Milan Lucic ou quelque chose de même. il y a de quoi de pas correct avec lui, là. Puis, finalement, je retourne au négatif après ça. Est-ce qu'on va croire que c'est vraiment l'équipe qu'on a, tu sais? Parce que, tu sais, le repos que les joueurs ont eu, particulièrement pour un Weber, pour un Price, tu sais, est-ce que ça a faussé la donne? Tu sais, parce qu'eux autres ne sont pas capables de faire des playoffs dans une saison de 82 games. Ben, le repos qu'ils ont eu, là, après ça, en étant matché, tu sais, dans une série, n'importe qui peut battre n'importe qui. Fait que, est-ce que ça va fausser la donne en disant on n'a pas besoin de tel joueur, on ne va rien ajouter à notre équipe parce que ces joueurs-là sont bons pour le futur? Peut-être pour des playoffs, pour des séries, mais pour une saison complète, j'ai encore des gros doutes.
Sylvain, toi?
Ben, écoute, c'est sûr que pas mal tout a été dit, mais je vais essayer de le twister d'une autre façon. Je vais te dire, ça a permis de réaliser à quel point l'embauche de Joël Bouchard à Laval est un bon coup. Parce que Kéké, là, on se comptera pas de romance. Là. Quand il est descendu en bas, c'est quand? En décembre, à peu près?
À peu près, là.
Bon, c'était dans le temps c'était un petit peu avant les fêtes ou un petit peu après. Bref, dans ce temps-là, là, en décembre ou en janvier, Kéké était perdu. Il avait zéro confiance. Ça allait vraiment pas bien. Tout le monde parlait de l'échanger contre 4,25 cents, puis tu sais, là, il revient, puis on n'a pas revu le même joueur du tout. Là, on avait un gars confiant qui n'avait pas peur de défier les gros attaquants de Pittsburgh et ceux de Philadelphie. Un gars qui était assez physique, T'sais, c'était plus le même joueur du tout, du tout, du tout. Là. C'est le même Kéké qu'on a aimé l'année passée pour sa vision du jeu, puis un gars quand même complet, puis tout. Mais il a level up, là. T'sais, là, c'est vraiment... T'sais, il y a cette étincelle-là, il y a ce hit factor-là qui fait que quand il est sur la glace, tu le vois, tu sais. Il n'est pas invisible. Fait que ça, je vais donner le crédit à Joël Bouchard parce que, clairement, ça vient de lui, là.
Moi, je vais vous partager le bilan de Marc avant d'y aller de mes commentaires.
Le bilan de fin de saison comparé à celui qu'on aurait eu au mois d'avril si on n'aurait pas été dans une position de participer à ce tournoi et éventuellement faire les séries avec en battant les Pingouins. On est beaucoup plus d'avant ce qu'on était. On a vu des choses dans le dernier mois qui nous ont appris à voir ce qu'on espérait, puis probablement un petit peu plus vite dans l'état de Nick Suzuki, la façon qui s'est comporté dans des gros matchs, et aussi la progression de KK. On peut bâtir, je pense, ça fait beaucoup d'années que le Canadien de Montréal n'a pas eu deux jeunes centres. Quand je dis jeunes, très jeunes, un avenir de 10 à 15 ans dans l'organisation qui va permettre de bâtir alentour de ces deux jeunes-là qui ont un avenir vraiment bel devant eux et avec l'organisation.
Je trouve ça intéressant, tu sais, parce que là, il nous dit, Marc, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu deux centres, deux futurs centres de premier plan pour l'organisation du Canadien de Montréal. Là, Marc, je veux juste que tu m'expliques, comment ça que ça fait des années que tu nous dis que ça se trouve pas des centres sur le marché des transactions? Tu viens d'en trouver un. Fallait juste fouiller peut-être un petit peu plus fort. Fallait juste peut-être essayer autrement. Moi, le bilan du Canadien, je pense que... Tu sais, Nick, quand tu as dit, là, si on prend la saison, ouais, bof. Si on prend les séries, oui. Mais le problème, c'est que le portrait des séries est trompeur. En ce sens que ça n'arrivera plus jamais que le Canadien... Puis en fait, toutes les équipes de la Ligue nationale vont rentrer en série frais et dispo à 100%. Ça n'arrivera plus jamais. Rentrer en série, ça implique un marathon de 82 matchs avant. Ça implique d'être usé, ça implique d'avoir joué, d'avoir subi les rigueurs de cette saison-là, de ce calendrier-là, et d'avoir besoin de la profondeur pour pouvoir continuer pendant le tournoi qui dure 2 mois. Dans ces séries-là, on a vu beaucoup de choses pour moi qui sont extrêmement révélatrices. Price a été irréprochable. Je pense qu'il n'aurait pas pu être meilleur, il n'aurait pas pu offrir de meilleures performances que ça. Les stats sont incroyables, son impact sur la game a été incroyable. Et Marc et Claude Julien ont toujours dit, le Canadien, c'est un club de matchs serrés, on va gagner les matchs serré. Puis c'est pas vrai. C'est pas ça qui est arrivé. Les matchs serrés contre les Flyers, c'est les Flyers qu'ils ont gagné. Price, il peut pas en mettre de but. Weber aurait pas pu mieux jouer. Petrie aurait pas pu mieux jouer. Kulak a joué au-dessus de sa tête. Chariot aussi. Hey, on parlait d'un big three là, quand on est rentré dans les séries après la ronde contre Pittsburgh.
C'est plus un medium three.
Un medium three, mettons. OK? On pire encore. Fait que clairement, la façon que le club est bâti, alors que Price était à son maximum, alors que Weber était à son maximum, on n'est pas passé à première ronde. Puis dans son bilan, Jeff Petrie l'a dit, jouer un style défensif, c'est important, mais à un moment donné, il faut générer de l'attaque, spécialement dans la nouvelle Ligue nationale. Et je suis complètement d'accord avec lui. Il était où, Tatar? Il était où, Domi? Il était où, Drouin? Il y a eu des flashs, là. Mais il était où?
Mais Drouin, on l'a vu quand ils l'ont jumelé avec Suzuki, là, vers la fin. Là.
Mais tout le monde fonctionne avec Suzuki.
Ouais, mais je pense... Ouais, mais tu sais, honnêtement, là... J'abonde dans le sens que Drouin et Suzuki, ça a l'air d'un solide fit.
Tant mieux. Si on peut trouver un duo qui fonctionne, tant mieux.
Hey, juste la passe du revers qu'il a faite là, sans regarder à Suzuki. Hein. Je pense que c'était dans le cinquième match ou dans le quatrième match. Mais tu sais, comme tu dis, Sylvain, je pense que le fit est bon. T'sais, on l'a dit à maintes reprises que Drouin n'est pas un game changer. Là, il a besoin d'avoir un centre avec des skills autant que lui pour bien paraître sur la glace. Puis tant mieux si c'est juste une parure puis que ça continue comme ça avec Suzuki puis que les deux vont ensemble, font le match puis que ça fonctionne. Mais je veux dire comme toi qu'avant, c'est vrai que Drouin, la série contre Pittsburgh, il était invisible. Hein.
Il était où, Armia?
Ben, je ne vais pas vous interrompre, là, mais Drouin a quand même fini avec le top des points de l'équipe. Là.
Mais check les points, j'imagine que c'était pas mal plus dans les, comme 3-4 derniers matchs de la série contre Philadelphie, parce qu'avant...
Peut-être, puis Armia, il a fini numéro 3 aussi, pour répondre à ta question, JB.
Troisième en attaque avec 5 points en 10 games.
Il est supposé finir troisième? Il est pas supposé finir troisième, lui. Ça, c'est du bonus que t'as.
Ben.
Si on t'avait demandé avant le début des séries qui seraient les trois premiers marqueurs du Canadien, ta réponse aurait ressemblé à Domi, Drouin, Dano. Tu sais, genre, tu sais, ouais, ou Tatar.
Gallagher. Ben, Gallagher, t'es blessé, là.
Ouais, mais tu sais, bref, Armia aurait pas été là.
Non.
Tu sais, c'est comme ça le point, là, tu sais, que. Des gros gars, mais tu sais, Tatar, là, tu sais, je sais qu'il y a des gens qui vont dire que j'étais un hater, tout, mais tu sais, quand on a été chercher Tatar, là, c'était après la run des Golden Knights qui avait donné des premiers choix pour l'avoir. Puis Tatar était tellement mauvais en playoff qu'il benchait.
Mm-hmm.
Tu sais, Tatar, là, c'est, tu sais, quand on parle de money player, de gars qui se présentent, Tatar, c'est pas ça.
T'as eu le Tatar de playoff, c'est ça que t'as eu.
Oh oui, parce que c'est ça. Un but, une passe en 8 games avec Vegas il y a 2 ans. Puis là, 2 buts, 0 passes en 10 matchs avec le Canadien lors des playoffs. Il y a 11 points en série en 35 games. C'est 0.3 points par match en série. Puis en saison, il est à 347 points en 575. Fait que ça veut dire un petit peu plus qu'un demi-point par match. C'est clairement pas pour lui. C'est un terrain hostile en série. Là.
Ouais.
Puis il est sur ta première ligne.
Ouais.
Donc on a un problème. Là. On manque de punch en attaque. On a une recette qui est basée sur la défensive. Et les matchs serrés, on les a pas gagnés. On n'a pas eu l'opportunisme en attaque qu'il y a de besoin pour pouvoir passer au prochain niveau. Puis je vois pas ça s'en venir. Là.
Ben, c'est. Moi, je pense qu'un gars comme Caulfield peut peut-être apporter cette dimension-là. Puis qu'est-ce que j'ai dit tantôt, c'est le Canadien, dans le fond, cette run de série-là, positivement, a permis de voir, puis comme tu l'as dit, Eduardo, le visage caché de certains joueurs, dont on a fait la mention de Tatar, qui est effacé complètement tant que les matchs sont importants, de Domi. T'sais, est-ce que d'échanger peut-être ces gars-là te permettrait d'aller chercher un joueur intéressant qui pourrait apporter cette dimension-là? Peut-être que oui. Là. Peut-être que non aussi, mais ça te permet, comme je dis, cette run-là a permis de pouvoir déceler les lacunes encore plus du Canadien. Bizarrement et étrangement, ça n'a pas été au côté du côté de la défensive. Là. On s'attendait à ce que la défensive soit ordinaire comme elle l'est depuis plusieurs années. Puis finalement, étrangement, la défensive, à part Mété, moi, je trouvais que c'était une défensive qui était relativement bonne et fiable. Là, c'est la lacune du côté offensif qui là, va falloir patcher, pallier assez rapidement parce que tu l'as dit, les matchs serrés, le Canadien n'avait pas le gros but qui pouvait faire la différence. Perdre un match 1-0 puis un autre 2-0 dans une série, dans la même série, ça se fait pas, là.
Mais tu sais, c'est pas normal que tu te présentes en playoff, puis que, exception faite de ton gardien de but, là, que tes meilleurs joueurs sur la glace, c'est tes kids de 19 ans. C'est pas normal.
Non, ça c'est sûr.
Tu sais, c'est cool pour l'avenir. Là. Tu vois que ces deux gars-là, c'est, sans partir en, en peur, mais tu vois que ces deux gars-là, c'est des vrais. Tu sais, quand ça compte, ils sont là. Tu sais, ça, il n'y a pas de problème.
C'est au moins ça, mais faut qu'il t'amène en playoff aussi, comme JB a dit. C'est,
tout à fait.
C'est, les playoffs, c'est, ça te prend du sandpaper quand tu es rendu là, mais il faut que ce sandpaper-là t'amène en playoff aussi. T'sais.
Ouais, mais tu sais, ton sandpaper, si ton sandpaper, il est doudou-doudou, là, ou qu'il est trop.
C'est pas du sandpaper, on appelle ça du papier de toilette.
C'est ça. Tu sais, parce que Domi, soit qu'il était trop doux, ou soit qu'il était trop vache, puis qu'il pognait des punitions de lâche. Tu sais, moi, s'il y a une chose que ces playoffs-là m'ont fait comprendre, c'est que vraiment, je ne redonnerai pas de contrat à Domi, à moins de l'avoir vraiment à rabais. Genre, moi, je ne donnerais jamais en haut d'un contrat bridge de 2 ans qui n'accepterait pas autour de 3,5. Là, tu sais.
Ouais, ben, dans le fond, ce qu'il y a déjà comme salaire en ce moment.
C'est ça. Parce que, OK, il y a eu une grosse saison l'an dernier, mais cette année, là, fuck all, là, OK? C'est... Puis, ça a été plus souvent qu'à son tour une distraction, même.
Ben, en plus, le problème avec lui, c'est le fait qu'il boude s'il n'est pas au centre. Puis c'est vrai, là, il, tu sais, sa saison de 72 points, il l'a produit au centre. C'est juste que là, l'échiquier, l'effectif du Canadien ne permet plus d'avoir Domi au centre. Puis on, si tu gardes Tatar, t'en as plus non plus du côté gauche, là, parce que t'as Tatar, t'as Drouin, t'as Byron. T'sais, même si c'est pas des gros chars, les noms dits de même, là, mais tu manques de place pour un Domi pour qu'il puisse, je dis pas s'épanouir parce qu'à un moment donné, c'est lui-même qui s'est mis dans ce sort-là de finir sur le quatrième trio au début des séries. Là. Mais tu le vois très bien là, que malheureusement, ça ne fit plus avec l'effectif du Canadien. Puis il faut trouver une solution avec ça parce que si tu restes avec lui pour l'année prochaine, un, tu ne réussis pas à pallier un autre point ce qui pourrait être plus important. Tu sais, trouver un joueur qui te permettrait d'avoir, qui fitait un peu plus dans le moule. Puis là, en gardant lui dans l'effectif, ben justement, tu l'as dit, tu sais, ça va être un troublemaker. Là.
Il n'y a pas une bonne influence dans la chambre, c'est sûr. Là.
Non, puis tu sais, ça t'a même créé un autre problème. Je ne sais pas si vous avez vu le genre de point de presse de... Dano, que les journalistes y mentionnaient, tu sais, là, avec l'émergence des jeunes puis tout, ben, est-ce que tu penses que ton travail va maintenant être plus au niveau de la défensive ou est-ce que tu excelles puis tout? Puis Dano, il avait pas l'air d'être enchanté, mais zéro puis une barre par cette perspective-là. Là. Mm-hmm. Lui, il revenait toujours sur le fait que ouais, mais tu sais, moi, je veux mettre mon grain de sel offensivement, je veux revenir offensivement. T'sais, vous le savez, là, je l'ai dit souvent ici, là, j'ai beaucoup de respect pour Phil Dano, qui n'a jamais été dans la bonne chaise. Là, il se retrouverait dans la bonne chaise. Ouais.
Mais on lui a fait miroiter cette année qui était un premier centre, puis je le comprends. Lui, là, regardez, c'est quand la fin de son contrat, là.
C'est ça qui est le problème.
Lui, là, s'il est en position d'être le premier centre à la fin de la prochaine saison, ben, il est en position de demander une sapristi de belle augmentation de salaire. Là. Fait que c'est clair que lui, il veut mettre des points sur le tableau. Puis s'il met des points sur le tableau puis il continue à être excellent défensivement, ça ne sera qu'à l'avantage du Canadien de Montréal. Ça, on est tous d'accord. Sauf que je comprends dans sa perspective à lui qu'il va en mettre des points au tableau. C'est ses poches, là. C'est son portefeuille qui colle la shot là-dessus. Là. C'est okay, normal, je comprends.
Phil Dano a été premier centre les 3 dernières années environ?
2 dernières années.
On va, OK. Soyons, est-ce qu'il a mis des points sur le tableau, vraiment?
53 l'an passé, 47 cette année.
C'est pas des points de premier centre, ça. On c'est même d'accord. Pas proche.
On est d'accord.
Fait lui, ce qui se base là-dessus, c'est que je veux la chance de jouer premier centre pour avoir du cash de premier centre. Mais je suis pas un. Tu sais, en toi et moi, il n'est pas un premier centre. Là. Non, même pas non. Proche.
Non, non.
Fait que lui, si son agent lui fait croire qu'il va avoir du cash de premier centre à Montréal ou ailleurs, il vit dans un monde de fantasy.
On a un problème. Sauf que ça fait quand même deux saisons où est-ce qu'il assume la tâche. Dans un club plus qu'ordinaire en attaque, on est d'accord là-dessus, mais c'est quand même lui qui l'assume la tâche.
Mais c'est un peu la même chose avec Domi, tu sais. Domi, il pense qu'il est si bon que ça, mais il n'est pas si bon que ça. Fait que c'est un peu ça le problème que les Canadiens ont. Ils ont des joueurs qui sont...
Qui pensent qu'ils sont si bons que ça.
Moi, c'est un peu plus que...
C'est comme Kulak qui pense qu'il est un défenseur de top 4, là.
Ouais.
Mais qu'il n'en a pas un.
Non, mais Kulak est un défenseur NHL, par exemple. Ouais,
mais oui, mais pas un défenseur de top 4.
Non, pas encore.
Sauf que revenons à la base du problème, là. Dano est le premier centre de cette équipe-là par défaut.
C'est normal. Était, peut-être, là.
OK. Était, mais lors des deux dernières saisons, il l'était.
Oui, oui, oui.
Lui, ça, dans sa vision à lui, c'est clair qu'il ne veut pas perdre cet acquis-là et qu'à 27 ans, il ne veut pas se faire dépasser par des kids de 20 et 21 ans. Ça, je le comprends parfaitement sur le plan humain de l'individu. Sauf que s'il n'accepte pas, si le Canadien le met dans une chaise comme troisième et qu'il ne l'accepte pas, puis que là, ses performances diminuent, ben, c'est peut-être le temps de l'échanger pendant que sa valeur est au maximum?
Ben, totalement. Moi, c'est exactement ce que je me disais aussi.
Est-ce que Dano peut avoir une meilleure valeur qu'en ce moment, là?
Non.
C'est sûr que non. Puis moi, j'irais même quasiment jusqu'à te dire que ton retour pour Dano doit être... OK, je vais... Équivalent à ce que tu vas avoir pour Domi. Je vais jouer safe, là, je vais dire équivalent.
Ah, mais non. D'après moi, tu mets Dano sur le marché des transactions. C'est sûr et certain que tu vas chercher beaucoup plus avec Dano.
C'est ça. Parce que je viens de dire que c'est parce que je voulais être le plus neutre possible.
Ah, OK.
J'ai joué safe, OK? Parce que si on avait fait ce statement-là l'année dernière, la situation aurait été complètement différente. Là,
OK, je comprends ce que tu veux dire.
Max Domi était le petit Jésus, là, tu sais. C'est un petit Christ, là, mais c'est une autre histoire. Là, mais...
Faut que tu trouves quelqu'un quelque part dans la ligue qui pense que Domi peut être, disons, deuxième centre. On va jouer de prudence. Là. Faut que quelqu'un pense que Domi peut être le deuxième centre et qu'il paye le mouton.
En fait, la seule façon que tu passes Domi, c'est un peu comme tu as passé Galchenyuk puis tu t'es fait passer Domi. Tu échanges un problème contre un autre problème.
Ben, sincèrement, tu sais, après avoir vu le trade de Kapanen à Toronto, pourquoi, parce que je sais que Pittsburgh, ben, ça sortait parmi les médias, là, mais que Pittsburgh voulait absolument avoir Domi au moment où les Canadiens sont allés chercher. Puis même encore au courant de la saison, il était intéressé aussi à Domi. Puis ça a l'air qu'il y avait des pourparlers juste avant la date limite des transactions. Pourquoi t'as pas essayé de le marchander là? À place, parce que les autres, ils voulaient chercher de la grit avec Kapanen parmi leur line-up. Pourquoi que tu l'as pas, t'as pas essayé? Tu sais, l'offre qu'ils ont eue pour Kapanen, sincèrement, moi, je trouve que c'est trop payé. Mais t'imagines, moi, j'étais pas loin d'appuyer sur le piton puis faire l'échange s'ils m'offraient la même offre qu'ils ont faite à Toronto.
L'offre à Toronto, dans le fond, j'essaie de trouver... l'avez-vous de mémoire, les boys?
Un choix de 1, un prospect, je dirais A.
Tu peux arrêter avec choix de 1, c'est déjà...
C'est ça. Puis en plus, t'as un prospect, t'as un prospect A. Avec, je me souviens plus de son nom, là, le petit Finlandais, si je me trompe pas.
Allender?
On t'a dit que tu pouvais arrêter, arrête!
Attends, si j'ai bien compris, Nick, tu disais que Pittsburgh offrait quelque chose du genre pour Domi à l'époque, mais pas maintenant, c'est ça?
Non, ce que je dis, c'est qu'il y avait des pourparlers, je ne sais pas c'était quoi l'offre en tant que telle, mais sincèrement, ce qu'ils ont donné pour Kapanen, pas mal sûr que tu aurais pu avoir quelque chose du genre pour Domi, puis selon moi, Domi est un bien meilleur joueur que Kapanen.
Absolument. Puis en plus, à l'époque, je pense que le problème, c'est que Bergevin voyait Domi comme étant justement le petit Jésus, comme Sylvain a dit, mais maintenant, il donnerait pour la moitié de ça.
Exact. D'où ce que je dis tantôt, tu sais, une offre de même se présente sur la table. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Surtout que tu sais que Pittsburgh a un intérêt pour Domi. Je ne sais pas à quel point qu'elle l'est encore, même après ces séries-là. Peut-être que je parle à travers mon chapeau et que la petite lune de miel est partie entre les deux, mais je pense que ça aurait pu être une offre que moi, d'un matin, j'aurais été super enchanté de faire, là, mettons. Tu te débarrasses de Domi, puis en plus, tu vas chercher une monnaie plus qu'intéressante. Là.
C'est plus un mal de tête aussi de moins, là, parce que lui, il faut que tu le signes comme RFA, puis après ça, tu as un paquet de UFA à signer l'année d'après. Fait qu'au moins, tu as un first pick, puis un bon prospect en plus.
Exact.
C'est quand même une transaction intéressante. Moi, Pittsburgh, je ne l'avais pas faite. Je trouve qu'ils ont payé cher.
Moi aussi, je trouve qu'ils ont payé très, très cher pour Kapanen. Je pense pas que c'est un gars qui a un potentiel de feu. Je pense qu'il est assez limité. Un peu comme Armia, là, tu sais, il peut aller chercher une saison peut-être de 40-50 points, mais tu sais, ça sera jamais plus que ça. Puis encore aujourd'hui, tu sais, il a pas prouvé, même dans un line-up offensif comme Toronto. Tu sais, il jouait avec Johnson pas mal toute la saison. Puis l'année passée avec Kadri, une partie de la saison également. Fait que tu sais, je pense pas que ça valait le choix de première ronde, premièrement. Tu sais, le prospect, un choix de 2 ou un choix de 3, tu sais, je pense que ça aurait pu être intéressant pour Pittsburgh et pour Toronto. Là, avec tout ce qu'ils ont donné, c'est sûr et certain que Toronto, je vois pas pourquoi il aurait dit non à cette transaction-là. Mais oui, tu l'as dit, c'est très cher à payer pour Pittsburgh. Mais encore une fois, Pittsburgh, ils veulent absolument profiter de la fenêtre qu'ils ont, même si peut-être la fenêtre est pas mal plus petite qu'ils pensent, là. Mais ils veulent maximiser le potentiel qu'ils peuvent avoir pour les prochaines saisons.
Mm-hmm. Ouais, mais tu sais, toi, Nick, qui est un fan de Pittsburgh, qui les suit et tout, tu sais, Kapanen, là, il fit exactement dans le genre de winger qui fonctionne avec Crosby. Ça a toujours été, tu sais, Crosby, c'est un grinder avec du talent, là. Okay, c'est un grinder complet. Tout, il va mettre le nez dans le trafic. Il va où est-ce que ça brasse puis tout, là. Mais il a les mains pour tout. C'est ça. Fait que c'est pour ça que ça ne fonctionne pas avec des gars comme des Galchenyuk. N'importe qui est passé là, ça ne marchait pas avec lui. Il faut que tu ailles des Pascal Dupuis puis voyons l'autre là, qui avait été aux Olympiques avec. Là, que je
cherche. Kunitz,
bon, tu sais. C'est des gars comme ça qui fonctionnent avec Crosby. Donc, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, OK, il avait besoin d'un winger. Probablement que j'imagine que Crosby a quand même son mot à dire aussi. Là. Puis que lui, ouais, ça j'imagine. Doit fitter dans ce qu'il recherche comme un winger. Puis en ce moment, ça a l'air d'un vol du côté de Toronto, mais d'après moi, dans un an ou deux, on va regarder les chiffres de Kapanen avec Crosby. On va faire comme moi, finalement. C'était pas tant un vol que ça. T'sais.
Peut-être.
Si, ouais, peut-être. S'il place avec Crosby, puis c'est ça le plan, je dis pas. C'est juste qu'actuellement, Crosby jouait à droite avec Brian Ross, qui jouait au-dessus de ses moyens. Là. Il y a eu une saison avant sa blessure de, je pense, c'était 56 points en 50 games. Là. Fait que, même lui avait du succès avec Crosby. Fait que, je ne sais pas à quel point tu peux...
Mais c'est ça. On va s'entendre que si que Kapanen, c'est un upgrade sur Brian Ross. Là.
Ouais, t'sais, probablement.
Fait que, tu sais, moi, je pense que... Parce que moi, quand j'ai vu ce deal-là passer, ça a été ma première réaction. Je me suis dit, OK, ils ont payé, mais ils ont été chercher un winger comme Crosby, MC winger.
Ouais, sur ce point-là, je te l'accorde.
Ceci
mais,
étant...
Mais ça reste qu'à froid, en ce moment, oui, ils ont payé cher. Mais si ça paye, tout le monde va l'oublier qu'est-ce qu'ils ont payé pour.
Ouais.
Ça, quant à moi, ça va être cute pour une saison, mais en playoff, ça va pas marcher encore plus. Il faut pas oublier que Pittsburgh ont perdu 10 de leurs 11 derniers matchs en playoff. Ça va pas bien. Fait que cette tendance-là, eux autres, ils ont besoin de plus de physique, de plus de sandpaper, quant à moi. Puis, tu sais, Crosby ne rajeunit pas. Fait qu'il va être. C'est un grinder, comme tu dis, avec du talent. Mais tu ne peux pas grinder tant que ça non plus. Fait qu'à un moment donné, moi, je ne pense pas que ça va marcher.
Au moins, ils se rendent en playoff. C'est pas comme le Canada. Ah non, excuse. C'est... Pandémie oblige, tournoi, toute la... on le sait, là. Mais... Je vais revenir à Max Domi. Commentaire de Marc Bergevin sur sa situation.
25 ans, il est encore jeune. Puis, écoute, je peux pas parler du futur en ce moment. C'est un joueur qui nous appartient techniquement encore pour deux saisons avant qu'il vienne agent libre. Alors.
Fait que c'est ça. Si vous cherchiez des arguments pro-Domi dans le point de presse de Marc Bergevin.
Il nous appartient.
Techniquement, il nous appartient pour deux saisons. Hey, que ça sent la confiance. Moi, je sais. Il me semble que ça déborde. Ça. Le sentez-vous, la confiance de Marc envers Domi? Ça, c'est une belle
chose. C'est l'équivalent de si tu as un ami ou un collègue de travail ou ben whatever. Qui te présente sa blonde en disant « c'est la mère de mes enfants ».
Ouais, exact.
C'est l'équivalent de ça, là. C'est comme... OK, ouais, tu sais, c'est comme la seule chose. C'est comme, tu sais, à défaut de, tu sais...
Ben, ouais, ça m'a donné des enfants. Enfants.
C'est ça, tu sais, fait que c'est un petit peu ça. C'est ça, tu sais, fait que c'est... Ouais, c'est ça. Moi, j'ai trouvé que c'était cet équivalent.
C'est... Non, non, c'est... Puis c'est rien pour mettre en valeur le joueur non plus. C'est rien pour dire que ça va bien se passer. C'est rien pour faire en sorte que Max Domi remette Montréal et Canadiens dans ses descriptifs sur les réseaux sociaux. Même chose d'ailleurs pour Ryan Poehling qui a lui aussi sur ses médias sociaux enlevé les mentions de Montréal puis de Canadiens. Je sais que Nick, toi, ça t'interpelle ça. Là. T'en penses quoi de cette... de ce mouvement-là, de cette gestion-là, de relations publiques de Domi et Poehling?
Mais tu sais, je trouve ça louche que du jour au lendemain, tu décides d'aller sur ton profil de réseau social, puis de décider d'enlever quelque chose qui est marqué. Tu sais, veux pas, tu joues pour le Canadien de Montréal, tu sais. C'est pas quelque chose que tu t'as honte, là. Il n'y a pas rien arrivé avec le Canadien qui fait que je me dissocie de ça. Mais tu sais, même chose pour Poehling. À quel point tu as besoin d'enlever la mention de Montréal, tu sais, qui veut même pas dire en plus Canadien de Montréal, là. Juste Montréal, MTL, comme Domi s'était marqué. Tu sais, je le comprends pas. Puis ça fait suite.
Là. Je viens de voir MTL est là. Mais...
OK, ben peut-être qu'il s'est fait avertir aussi par l'équipe que ça avait créé un mess monumental. Là, puis, tu sais, je sais pas si tu voulais t'enligner sur la rumeur qu'il y a eu dans les camps. Une transaction, dans le fond, que ça mentionnait, c'était une journaliste de... J'ai vu dans un article que c'était une journaliste de Météo Média qui n'a aucun rapport avec le hockey, qui a marqué sur Twitter comme quoi qu'il y avait des pourparlers avec les Flames de Calgary pour nul autre que Johnny Gaudreau, qui, dans le fond, l'offre était Montréal offrait Domi et Poehling en plus du choix de première ronde de cette année, le 16e au total, contre Johnny Gaudreau. Puis en même temps, c'est là que, je pense, un petit peu avant que Domi a enlevé cette mention-là de Montréal, puis après que cette rumeur-là est sortie, c'est là que Poehling a enlevé également cette mention-là dans son profil. Donc, ça a fait encore plus exploser la rumeur comme quoi qu'il y avait peut-être quelque chose qui se tramait entre les deux parties. Puis non, je trouve ça bizarre que comment que tout ça a grandi, grossi. Tout ça parce qu'ils l'ont enlevé ça de leur profil, mais en plus, tu sais, je comprends pas non plus timing, où était le but. Hein. Ouais, c'est ça, c'est le timing qui a fait que c'était bizarre, là, complètement bizarre.
Moi, je vais défendre Poehling.
Ouais.
Parce que il était pas sûr de qu'est-ce qu'il devait faire parce que la convention républicaine qui allait arriver fait qu'il devait enlever toute mention du Canada pour que son boy Trump il soit pas fâché contre lui. Ouais. Parce qu'il avait retweet des affaires de Trump dans le passé. Fait que...
Mais là, Poehling, là, on va jaser. Là. tantôt, là, c'est Sylvain, t'as encensé.
On jasera pas très longtemps.
Non, mais t'as encensé le travail de Joël Bouchard à Laval. Poehling est sous la tutelle de Joël.
Techniquement.
On est dans la bulle, là. On est dans les séries, on est dans le tournoi de qualification de la Coupe COVID 2020. Alex Belzil a joué avant Peeling. Jordan Will a joué avant Peeling. Charles Ludon a joué avant Peeling. Dale Weiss a joué avant Peeling.
Jake Evans.
Jake Evans a joué avant Peeling. Mais lui, je le mets comme un espoir intéressant pour l'organisation. Fait qu'il peut être en avant. Mais exact. Les autres, on oublie ça, là. C'est pas supposé d'être en avant de Ryan Peeling dans un tournoi que Marc nous dit c'est le fun, on a donné de l'expérience à nos jeunes. On est-tu en train de vivre un autre cas de flop, de mauvais développement ou de mauvais choix de la part du Canadien?
Ou de Fortnite.
Ou de Fortnite.
Coupez-y le Wi-Fi.
Ils font des annonces Vidéotron de ça. Ouais, là,
coupez-y le Wi-Fi, esti, ça va marcher. Non, mais pour vrai, là. Et tu sais, c'est comme connu partout là, que Peeling il est tout le temps en train de gamer tout.
Mais pas juste ça, je sais pas si vous l'avez vu passer, ça a passé dans les coulisses. Comme quoi que Peeling ne se serait pas entraîné de tout le temps du COVID.
Mais non,
du mois de mars jusqu'au mois de juillet, il ne s'est pas entraîné.
Il n'y a personne qui le watch. Je veux bien croire qu'il ne pouvait pas aller le voir chez eux dans sa maison, mais. Un petit zoom une fois de temps en temps, là, avec caméra pis tout. Montre-nous que tu fais des push-ups. Non, mais tu veux protéger ton investissement ou pas? Tu vois que le gars, ça, il a pas l'air à s'entraîner. Tu le surveilles un petit peu plus. Non?
Ben, fait juste pas y envoyer des invitations pis à un moment donné, il va peut-être te demander « Hey, qu'est-ce qui se passe avec moi? » Ben, ça.
Mais, ben, je pense que c'est un peu ce qui est arrivé. Tu sais... Moi, je trouve ça plate parce que tu refais le même scénario l'année passée après qu'il a compté 3 buts puis qu'il a été nommé joueur offensif du dernier championnat des moins de 20 ans. Tu sais, je pense pas que cette discussion est là à dire que c'est un flop ou pas. Mais là, aujourd'hui... Puis tu sais, moi, ce qui me fascine avec tout ça, c'est que le Canadien... a le département psychologique probablement le plus intense de toute la ligue parce que je ne sais pas si vous entendez les versions des jeunes prospects avant le repêchage, les questions bizarres qui passent à travers les entrevues, puis que c'est souvent le Canadien qui ressort comme l'équipe qui a posé les questions les plus fuckées. Tu n'es pas censé après ça d'être capable de cerner un joueur puis de savoir que ce gars-là, il est peut-être un peu fucké ou peut-être un peu bizarre entre ses deux oreilles, puis qu'il va pas s'entraîner le temps d'un COVID, puis que je dis pas que c'est écrit dans le ciel qu'il y a la fois le COVID, mais tu sais, juste le. Tu sais, je suis pas mal sûr que les deux jeunes, Suzuki et Kotkaniemi, ont profité de ce moment-là pour se mettre en forme au maximum pour arriver en défoncer, sachant très bien que le Canadien avait probablement peut-être même pas de chance de se rendre, ben, plus que pas de chance de se rendre jusqu'en finale, mais. Tu sais, ces gars-là, probablement ils se sont relevés les manches puis qu'ils se sont entraînés comme des malades. Puis que t'as lui qui le fait pas. Puis qu'en plus, tu sais, on parlait de Donald Trump. Mais tu sais, c'est des choses quand même qui sont à prendre en considération quand tu repêches un joueur. Je dis pas que voter Donald Trump, ça veut dire que t'es un flop. Mais juste de cerner un peu le personnage parce que semble-t-il qu'il est un peu bizarre avec ses coéquipiers aussi. Il est comme pas... trop social, tu sais, sans que ça soit problématique, mais juste que il fait pas avec le moule du club.
Il est redneck, Bible Belt, pro-Trump.
Exactement.
Je comprends, ça passe pas avec tout le monde.
Mais tu sais, ça revient à ça, là, tu sais, on fait des shows pour les Patreons, tu sais, puis qu'on refait... draft par draft, tu sais, qu'est-ce qu'on prendrait aujourd'hui avec qu'est-ce qu'on sait, hein? Ben ça, là, ça fait partie de qu'est-ce que tu sais pas qui peut se passer entre l'âge de 17 ans et de 20 ans. Mm-hmm. Tu sais pas si le kid, qui peut avoir l'air bien sérieux, là, OK, qu'un bon petit gars de bonne famille chrétienne, tu sais, qui a les valeurs à la bonne place, puis tout, Puis là, pouf,
ben, tu lui donnes un petit bonus. De... Moi, je me méfie. Là.
Ben,
c'est pas un mix que j'aime bien. Ben.
moi non plus, mais tu sais où est-ce que je m'en allais avec ça. Là, pareil, là, que tu sais que ça a l'air d'un bon petit gars avec la tête, ses épaules et tout. Mais tu sais pas comment ça va réagir un kid quand tu vas lui donner genre un bonus de signature d'une coupe de 100 000 ou d'une coupe de millions, mm-hmm. puis qu'il va faire son premier million. Tu le sais pas, là. Tu sais, replacez-vous à 17, 18, 19 ans, là. OK? Je sais que moi, je n'étais pas millionnaire, je ne le suis toujours pas.
Mais puis, ça sent bien. On travaille puis, là-dessus.
je me suis pété la face royalement. Fait que j'imagine si dans une ville comme Montréal, où est-ce que tu joues pour le Canadien, même si tu es un nobody, tu joues pour le Canadien, tu rentres n'importe où, tu es une superstar, tu te fais payer des verres, tu peux en payer à tout le monde, les petites filles sont après toi.
Des petites filles chrétiennes, avec des bonnes valeurs.
Mais peut-être pas nécessairement. Ceux-là, je pense pas. Tu sais, mais tout ça pour dire que ça, c'est l'impondérable que tu ne sais pas. Qu'est-ce qui peut se passer avec le kid? T'sais, peut-être qu'il a été sérieux toute sa vie, puis que là, t'sais, que ses parents, ils poussaient dans le cul, puis whatever. T'sais, on ne sait pas. Puis que là, pour la première fois, il vole de ses propres ailes. Il a de l'argent dans son compte de banque. Hey, fuck off. Là, t'sais, mon talent va être assez pour m'amener là. Mais rendu à ce niveau-là, c'est plus ça. Là. T'sais, on parle des Crosby puis des McDavid puis tout. Pourquoi ils sont les meilleurs? Ben parce que ça reste que c'est eux autres qui travaillent le plus puis qui s'entraînent le plus encore aujourd'hui, même si leur place est assurée.
C'est des sure shots, eux autres. Je pense que ce que moi, je renais à ce que Nick disait, c'est que Canadiens, ils ont un crew de psychologues puis de monde qui prépare des questions puis tout ça. Ils ont besoin d'un crew qui relaie ce qu'ils ont découvert dans les entrevues au coaching staff, puis est-ce que le coaching staff est ouvert à recevoir ces informations-là? Ça, c'est une autre question. Puis est-ce que ces informations-là sont retenues dans le futur avec le développement du joueur? Fait que là, si on n'a pas ça, bien, on devrait avoir ça. Le Canadien devrait avoir la meilleure équipe de développement de l'histoire du monde, tu sais. Parce qu'ils ont... Ils ont les effectifs, ils ont l'argent, là. C'est pas ça le problème.
C'est ça, ils ont les ressources.
C'est ça, il n'y a pas de cap là, sur les coachs puis les psychologues puis tout ce que tu peux faire. Ils devraient être au maximum là-dessus. Fait que je comprends qu'un joueur comme Poehling, moi, à 18 ans, j'étais comme complètement plus dégénéré que Poehling. Mais Poehling, au moment où est-ce qu'il était, justement, c'était un bon joueur qui était en développement, tu sais, qui constant. Donc, comment est-ce que ça a crashé tout d'un coup? C'est là la grosse question. T'sais.
Puis, tu sais, tu mentionnais qu'il est arrivé jeune, mais on s'entend que, contrairement à certains autres dans la ligue, tu sais, il est arrivé quand même avec le Canadien à 20 ans. Je dis pas que t'es un adulte responsable rendu à cet âge-là, parce que certains, ça en prend beaucoup plus, puis d'autres qui le sont jamais. Mais, tu sais, sincèrement, arrivé à 20 ans, t'as quand même un bagage, tu sors de l'université. Moi, le bon problème à travers tout ça, puis je respecte tout ce que tu as dit, Sylvain, puis je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, mais tu sais, c'est juste que c'est un pattern que le Canadien, on dirait que ça fonctionne pas, tout ça. T'sais, on a juste à parler de Beaulieu, on a juste à parler de Sherbach, on peut parler maintenant de justement de Poehling, puis il y en a plein d'autres. McCarron, même dans le temps, des gars comme Ribeiro et compagnie, tu sais. Pourquoi que avec tout le bagage de psychologue, tu n'es pas capable de trouver des gars? Tu sais, ben ça fonctionne bien. Là. Je ne sais pas s'ils mettent un peu moins de pression là-dessus avec les choix de 2, les choix de 3, les choix de 4 puis le reste. On dirait qu'eux autres, il n'y a pas trop de problèmes. C'est les choix de 1 qu'on dirait que ça crée un gros problème parce que les sélections qu'ils font, puis tu sais, honnêtement, à Montréal, avec tout ce qui s'est passé dans les dernières années, tes choix de première ronde devraient être pratiquement des sure shots. Là. Tu peux pas te tromper. Puis si tu te trompes encore plus avec des gars qui sentent les deux oreilles et que ça fonctionne pas, Mais selon moi, c'est là que ça ne marche pas. Là. Avec toutes les ressources que tu mets sur tes questionnaires fuckés pour déceler les personnalités cachées des joueurs, Christy, on voit très bien que ça ne fonctionne pas. Là.
Mais combien de fois vous avez entendu Marc Bergevin et Trevor Timmins parler qu'une des affaires les plus importantes pour eux autres, c'est le caractère? Combien de fois? Il me semble que c'est tout le temps ça. Avant le talent, c'est le caractère qu'ils cherchent. Là, tu as parlé de Galchenyuk, McCarron, oh, Peeling. Caractère, c'est ça que vous mettez comme priorité. Vous vous plantez royalement. Changez la méthode. Regardez, visez d'autres choses, bâtard. Ça marche pas, votre affaire.
Pognez les plus fuckés, là.
Oui, c'est ça. Ceux que vous trouvez fuckés, c'est peut-être eux autres qui vont marcher, finalement. Je sais pas. Mais là, revenons avec l'histoire de rumeur. Johnny Gaudreau, moi, si ça se passe, je suis content. Là. Mais ça va-tu se passer?
Pas sûr. Je pense que ça serait probablement déjà fait, à moins qu'ils attendent de voir au repêchage pour voir les prospects descendre. Puis si le Canadien, je sais pas si le Canadien a mis un stand-by là-dessus, puis tout dépendant de qui va être disponible au rang de sélection que le Canadien va faire au 16e rang, probablement que leur décision serait prise là, mais. Je pense, après avoir vu la transaction de Toronto puis Pittsburgh, je vois pas pourquoi, surtout que le Canadien et Calgary sont deux équipes éliminées, je vois pas pourquoi qu'ils le feraient pas là.
Ben je te dis pourquoi qu'ils feraient pas ça là. Parce que ça fait 15 minutes qu'on parle d'un tweet d'une fille de Météo Média.
Elle a le droit de tweeter, OK?
Mais c'est drôle, quand Nick nous en a parlé entre nous autres, il n'a jamais mentionné de où ouais. était cette source-là.
La source de Nick.
Fait que c'est pour
gardé.
Ça quand tu m'as sorti ça, j'ai. Mais clairement, parce qu'il savait que s'il nous avait dit ça dans notre conversation,
on aurait fait.
Hey, décolliste avec ta fille de
Météo Média. Ce que j'ai pas mentionné.
Attends une minute. Why the fuck que tu suis une fille de Météo Média?
Non, je ne le suis pas. C'est soit DLC ou Absolument Fan qui marquait okay. cette nouvelle-là. Puis c'est après que j'ai vu qu'il était Météo Média. Je pense que c'est dans. Moi, j'ai vu Absolument Fan. Puis c'est après ça DLC qui a rajouté qui était une personne de chez Météo Média.
Ouais. Moi, je veux savoir, là, c'est quand la Météo Média? C'est quoi son pourcentage de réussite? Parce que. Ça doit être équivalent. On peut s'y fier à elle.
Oh, j'en ai aucune idée.
Ben, si ça arrive, ça va être 100%. Ça va être 100 ou 0.
C'est ça. Dernier truc par rapport au bilan de saison, mais surtout des séries commentaires de Marc Bergevin sur le prix à payer.
L'expérience de nos jeunes joueurs, puis la façon qu'ils nous ont démontré leur progression est à pas de prix. Alors, de reculer de 6 choix, écoute, c'est un prix vraiment petit à payer.
Mais là, ça n'a pas de prix ou il y a un prix? Aussi petit soit-il, y a-t-il un prix ou il n'y a pas de prix? Là? Marc, c'est compliqué des fois. J'ai pas fait de montage. C'est vraiment back-à-back. Il y a ces deux affaires-là. C'est compliqué avec Marc. Pas sûr ses expressions tout le temps. Là. Ça valait la peine, ce parcours-là? Est-ce que vraiment ça va avoir aidé, on va dire, Keke puis Suzuki? Parce que les autres, ils n'ont pas joué, là, les autres prospects de l'organisation, à part Evans un petit peu. Là, mais est-ce que vraiment 10 matchs de série, ça fait une différence dans la carrière d'un joueur?
Moi, je trouve que ça a aidé l'évaluation des joueurs en général. C'est qui peut donner de quoi à peu près dans une situation de play-off. Mais j'espère que ça n'a pas souillé Marc Bergevin dans son évaluation de son effectif du genre « on ne va rien ajouter à l'équipe, on est bon comme ça, puis on va faire les playoffs comme ça », parce que si c'est ça, ça ne marchera pas l'an prochain.
Sylvain?
Ben, j'abonde un peu dans le même sens que tout le monde. Je n'ai pas rien d'autre à rajouter. Là. Oui, ça t'a permis de voir que tes jeunes sont prêts, mais ça t'a coûté cher au final, pareil.
Oui, très cher. Parce que là, il parle de reculer de 7 choix de 9 à 16, mais la réalité, c'est que c'est peut-être 1 à 16. On le saura jamais.
C'est ça.
Mais c'est peut-être 1 à 16.
Tout à fait.
Puis, Nick, ta Miss Météo, elle en pense quoi de ça?
Attends un peu, je vais aller y écrire.
Va t'informer.
Ah, OK, elle m'a répondu, elle me dit que...
Va pas sur son Instagram, là, cochon.
Elle dit qu'il fait fret, aujourd'hui.
écoute, c'est parce que l'affaire, c'est qu'avec le repêchage, tu sais, moi, c'est plus rendu au repêchage que je vais faire ma propre évaluation de tout ça, là, parce que, tu sais, les repêchages peuvent débouler dans une direction qui n'était pas prévue, puis que finalement, un joueur drop à la position du Canadien, puis, tu sais, on va s'en frotter les mains par la suite. T'sais, un peu, sincèrement, moi, j'étais satisfait de la sélection de Cole Caulfield l'année passée. Puis, tu sais, c'est un joueur qui a glissé, qui était techniquement, assurément dans un top 10 de n'importe quel, on va dire, entre guillemets, spécialiste. Puis, tu sais, il a droppé au rang du Canadien au 15e. Fait que, tu sais, je me dis peut-être que c'est une histoire qui peut se répéter d'une certaine façon. Tu sais, peut-être aussi que les Canadiens vont peut-être monter au repêchage pour sélectionner un gars plus haut, faire une transaction, tu sais, on le sait pas non plus. Je pense que l'expérience en tant que telle pour les jeunes, puis tu l'as dit, Eduardo, tu sais, ça a permis de voir l'effectif en tant que tel, puis de pouvoir avoir une évaluation un petit peu plus importante, là, parce que, tu sais, une saison complète, c'est un, mais les séries éliminatoires, ça en est une deuxième aussi, tu sais, une évaluation que tu dois prendre en considération, puis... Tu sais, je pense qu'un gars comme Tatar, malheureusement, ça va pas rendre son prochain contrat plus beau. Là. Je pense que ça peut peut-être avoir une incidence directe dessus. Fait que, tu sais, de ce côté-là, puis tu l'as dit encore une fois, Eduardo, tu sais, j'espère juste pas que Marc Bergevin va s'asseoir sur ses lauriers et se dire « Hey, finalement, on a un club intéressant. On a presque été compétitif à Philadelphie, fait qu'à quoi bon faire des mouvements de personnel, t'sais. Moi, c'est juste ça qui me fait peur, mais je pense qu'en même temps, il était assez réaliste avec tout ça, puis je pense bien qu'on va pouvoir avoir des mouvements de personnel éventuellement.
OK. Son objectif en début de saison, c'était quoi?
Faire les séries. Il a atteint l'objectif. Merci, bonsoir. Okay.
Playoffs!
C'est ça. Mais tu sais, c'est...
C'est tout ce qui compte.
Ouais, c'est ça. Mais tu sais, encore là, tu sais, dans ce que tu dis, Nick, que, si tu veux te ravancer au repêchage, tu sais, tu peux trader pour te ravancer, mais quand, dans le fond, tu aurais pu juste, tu sais, ne pas gagner aussi, là, tu sais.
Ouais, mais...
Ça t'aurait rien coûté. Mais tu sais, tu vois, c'est pour ça que je t'aime au fond, Nick. Parce que tu es un éternel optimiste. Ouais. Tu crois aux licornes, aux arcs-en-ciel et aux tweets de filles de météo.
Mais tu ne pouvais pas gagner. Là. Une fois que tu es en playoff, il faut que tu joues pour gagner.
Oui, you ça, play je comprends les joueurs, il n'y a pas de trouble.
Oui, ça, tout à fait. Tu sais, puis ça revient à...
Dans le fond, Bergevin a été malchanceux.
Mais peut-être qu'il s'est dit, justement, dans le meilleur des scénarios, on fait 7 matchs, pas 7 matchs, mais 5 matchs contre Pittsburgh. Les jeunes vont ressortir du lot, puis on a perdu pareil, fait qu'on garde notre sélection. Moi, c'était le scénario optimiste, là, c'était ça. Là. 3 points chacun pour Suzuki, Kotkaniemi, joue bien, le Canadien perd en 5. T'sais, moi, sincèrement, ça, ce scénario-là, je l'aurais pris n'importe quand. Mais là, maintenant que les gars se sont rendus contre... Tu sais, puis je pense que... Ouais, écoute, c'est difficile à dire parce que tu l'as dit, Sylvain, que finalement, on va te donner plus pour peut-être sélectionner plus haut, finalement, qu'on aurait déjà eu cette position-là initialement. T'sais, oui, je suis d'accord avec toi, mais ça veut dire qu'on ne prend pas en considération que les 10 matchs des séries, dans le fond, c'était poubelle. Là. Ça n'a rien changé aux jeunes. L'expérience en tant que telle ne valait pas la peine. T'sais, je ne sais pas si vous dites que 10 matchs en série ou 0, c'est la même affaire. Moi, je pense que ça a quand même une importance sur l'évaluation qu'on a eue des jeunes. T'sais, moi, j'ai été inquiet de voir ce que Kotkaniemi allait faire comme série, là, parce que avec tout ce qui s'est passé avant, durant la saison, je m'attendais pas à ce qu'il sorte aussi fort. Puis maintenant, je me dis, crime, finalement, on a un bon joueur de centre, puis ça va arrêter les rumeurs sur ou les hates sur Kotkaniemi pour au moins encore jusqu'en décembre.
Au moins, je connais ça. Sauf que, tu sais, je reviens à ma prémisse de base quand je parlais de l'analyse de ce parcours-là en série, c'est que ça n'arrivera plus jamais des séries où est-ce que tout le monde arrive frais et dispo. Mais ça, c'est aussi pour les prospects, là. C'est aussi pour les jeunes de l'organisation. Suzuki, là, quand il va arriver ses prochaines séries, il a bien beau avoir déjà ces 10 matchs-là, puis Keke aussi, ils ont bien beau avoir ces 10 matchs-là, sauf qu'ils n'ont jamais eu 10 matchs de série après 82 matchs de saison. Fait qu'ils savent c'est quoi des matchs de série, slash l'intensité peut-être, le fait d'affronter le même adversaire à plusieurs occasions back-à-back. Ça, oui, effectivement, il y a une connaissance de plus, mais les rigueurs du marathon, plus après ça, les séries, ils n'auront pas encore vécu ça.
Ils ont 20-21 ans. Là.
Oui, non, ouais, je sais, mais cette expérience-là, elle est tronquée d'une portion hyper importante.
C'est ça, faut pas se leurrer avec ça. Là. C'est des bons centres de futur, peut-être numéro un, mais ils n'ont rien prouvé encore là, dans une saison totale.
Ben, moi, sincèrement, ce que Suzuki a fait cette année de la saison, et oui, vous avez les séries, même s'il y a eu 4 mois entre les deux, là, mais sincèrement, moi, Suzuki m'a plus qu'épaté. Là. Pour un jeune de première saison.
Il y en a donné plus que ce qu'on s'attendait. Il y en a donné plus que ce qu'on s'attendait.
Oui, mais c'est pas du centre numéro un.
Ben, c'est sa première année dans la ligue.
Mais c'est ça, tu sais.
Exact.
Justement,
ça regarde bien, mais c'est pas...
McKinnon, ça y a pris combien de temps avant de devenir...
Ça a pris 4 ans.
Tu sais, fait qu'il faut toujours ramener ça là, mais c'est bon que vous en allez là parce que, dans le fond, vous me rappelez mon point principal de qu'est-ce qu'on peut retirer de ces playoffs-là. Ça fit avec où est-ce qu'on s'en va, de qu'est-ce que Marc devrait faire et tout. On a réalisé là que avoir un excellent adjoint à Carey Price, c'est un must. Parce que quand Carey Price arrive en playoff et qu'il n'a pas goalé 70 games, il est capable de faire la différence à lui tout seul.
Ouais.
Fait que là, Marc, trouve-y un vrai gardien numéro 2.
En fait,
un gars qui va être capable de t'en gauler genre entre 25 et 30, tu sais, pour que Carey t'en gaule 50-55, whatever, tu sais. Mm-hmm. Ça reste encore un bon premier gardien, mais plus jamais de 2 games en 2 soirs, puis rien, là. T'as besoin d'avoir un bon second que tu n'as pas peur d'envoyer contre Pittsburgh, contre Colorado, contre n'importe qui. Là.
Mais tu
ça, ça devrait être sur le top de sa liste.
Tu vas avoir 13 à 14, peut-être 15 millions de dollars en salaire pour des gardiens.
Ben c'est ça.
Ça n'a pas de bon sens.
Un gars comme ça parce qu'il fait trop de cash.
Ben, tu sais, je pense qu'Alak n'a pas signé à gros prix à Boston. Si tu vas, t'en vas. Tu sais, le duo avant, Lennard, Grice... avec les Islanders, c'était pas un duo qui coûtait. Ben, tu sais, c'est sûr, ouais, tu vas me dire que.
D'interrogation, là.
Mais, tu sais, ça reste que ça a fonctionné. Tu sais, encore cette année, Varlamov, Grice, ça fonctionne. Tu sais, des duos. Moi, je pense que, tu sais, au lieu d'aller viser pour un goaler, tu sais, un deuxième goaler, tu sais, essayer de viser pour un 1B, tu sais, quelque chose qui peut t'apporter, comme
mais
tu
ton,
le dis.
Ton 1B va te coûter quand même cher, tu sais.
Puis c'est sûr et certain
année,
que ça se peut qu'il
est
coûte,
disponible dans les goalers disponibles que tu peux signer. Genre le Top Gun, c'est Cam Talbot, genre.
Ou Crawford.
Crawford, il était. Ouais.
Tu sais, moi, Crawford, sérieusement, tu le signes. Tu
mais
signes
Crawford va toujours.
Millions.
Non, mais Crawford va toujours commander plus que Talbot, là, parce qu'on parle de lui. Là. Mm-hmm. Parce qu'il y a les Coupes Stanley en arrière de lui, puis il y a l'aura en arrière de tout ça.
Un
tout,
autre
que
de l'aura.
Ben oui, mais tu sais, Crawford te coûterait plus cher que ça.
Ouais,
tu sais, mais
3,5 en montant.
Puis soyons honnêtes, tu sais, Corey Crawford, là, ses meilleures années sont clairement derrière de lui. Là.
Mm-hmm. Ouais, parce mais tu sais, un rôle de deuxième, si c'est affirmé
même,
dans sa tête.
Yeah, même là, je sais. Écoute, honnêtement, je sais pas qui je prendrais entre lui et Talbot.
Ben, moi, je prendrais probablement Talbot. Là. Il vient d'avoir une saison de 2,63-919 d'efficacité là, en 26 games.
Tu sais, il y a eu des belles saisons à Edmonton, là, Talbot. Là. Mais T'sais, tandis que Crawford, là, ça fait 3 ans que la pente descendante est vraiment commencée, blessée tout le temps. T'sais, ça va pas bien.
Mais tu sais, un là-dedans, t'sais, peu importe, paye-les, là, ce titre goaler. Là. T'sais, hors de question, tu l'as dit, hors de question que tu fasses goaler une autre saison. Surtout que Price est vieillissant, là, tranquillement, c'est... Ça va être difficile pour lui de continuellement jouer autant de matchs que ça. Fait que, tu sais, justement, faut que tu le préserves parce que là, il est signé pour encore 6 ans. Fait que préserve-le du mieux que tu peux puis paye pour un goaler qui va t'en donner. Paye 2,5, 3 millions, je m'en fous. 3,5 si c'est le top gun que tu veux avoir, mais tu sais, je sais que c'est pas le meilleur des scénarios pour une masse salariale qui montera pas, mais t'as pas le choix. À moins d'avoir un jeune loup qui pousse dans le cul de Price comme primo. Tu sais, si c'est ça, crème, c'est le meilleur des scénarios parce qu'il va te coûter un salaire de recrue.
Ouais, mais primo n'est pas rendu là. Ouais, mais primo n'est pas rendu là.
Au pire,
est-ce que tu es confiant de donner le filet à primo 25, 30 games par année puis espérer qu'il va t'en gagner au moins 50% de ceux-là? Parce que si tu veux faire les playoffs, faut que tu donnes à peu près. Puis que Price arrive en playoffs en santé, faut que tu y donnes entre 25 et 30 games. Mm-hmm. Puis pour faire tes playoffs, faut que ce gars-là aille te chercher au moins 50% des points dans les matchs où il va être impliqué.
Ouais, ouais.
Sauf que c'est un non-factor. 2 millions faciles en salaire pour aller te chercher de l'attaque. Que t'as besoin.
Oui, sauf que tu vas arriver short. Tu vas arriver short dans tes points pour faire les playoffs. Là, parce que oublions pas là, que ça ne sera pas plus facile faire les playoffs. Là, parce qu'il y a du monde qui est en arrière de nous autres qui vont prendre un nasty step-up. Ouais. Je pense aux Rangers qui ont des crises de chance de prendre un gros step-up. Là, OK? Ottawa, faut pas les oublier. Ils vont passer en avant de Montréal.
Ils ont 2 choix top 5.
C'est ça. Il y a plusieurs équipes qui vont passer en avant de Montréal. Puis j'en vois pas tant que ça descendre en dessous de Montréal en même temps.
Ben, c'est ça. C'est juste le monde qui sont déjà en avant. Est-ce qu'eux autres vont vraiment pas s'améliorer versus Canadiens?
Ouais. Ça sera à suivre la saison prochaine. Tout ça. Puis durant l'été, les mouvements de personnel, j'ai hâte de voir le 1er juillet, qui ne sera pas le 1er juillet, on s'entend, là, mais
ouais,
le marché des joueurs autonomes, ça va être...
Genre le 1er novembre. Là.
Ça va être weird, la date, mais surtout le fait que le plafond salarial n'augmentera pas. Tu sais, il y a des chances que des gars comme, mettons, Max Domi, qui ont toujours été habitués, eux autres, que ben ça valait en montant le salaire. Ben ça ira peut-être pas en montant. Avec toutes les équipes qui sont pognées à gauche avec le plafond salarial, parce que les équipes, on s'entend, planifient leur masse salariale des saisons à l'avance et tout le monde calculait avec des augmentations du plafond. Là. Tout le monde est dans la merde parce que pour les minimum les 3 prochaines saisons, le plafond va rester à la même place. Fait qu'il y aura certainement une répercussion sur les salaires donnés aux joueurs. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ça. On en reparlera dans un show futur de la POC. Je veux.
Ça à cause de Bill Gates puis les tours de 5G. Pis...
Tout à cause de tout ça.
tout ça.
Je veux remercier tous nos patrons qui, eux, ben, vont avoir accès à l'après-show qu'on va enregistrer dans quelques instants.
Ne le manquez pas, on va se payer la traite.
Oh, que oui, ça va être le fun pour nos patrons. Ils ont aussi accès à tout plein de matériel qu'on a fait. Exemple, on parlait tantôt des redrafts. On a fait 2000 à 2007 jusqu'à maintenant, mais il y en aura d'autres. On a fait des Pocton films, on a parlé de plein de trucs, on a fait nos meilleures équipes de la décennie. Il y a plein de matériel, vous avez des heures et des heures de matériel exclusif là-dessus. Dès que vous devenez patron de la POC, vous avez accès à tout ce matériel-là. Patreon.com/lapoc. Y a-t-il quelqu'un qui allait dire de quoi? J'ai entendu un... Non? OK. Nos patrons, je les remercie. Christopher Hills, Adrien Lambert, Alexis Daou-Tremblay, Pierre Giacometti, dans le slot, Génital, merci Eduardo, David Rondeau, Jean-Philippe Vandal, Jerry Godbout, Pierre-Luc Bouchard, René Lavoie, un gros merci Nick, et Samuel Savard, qui sont nos patrons. on a fait, dans le fond, en plus, un tirage. Il y avait un tirage en plus pour nos patrons, pour les photos avec Kotkaniemi, signée autographie de Kotkaniemi. Donc, ça donne aussi...
Que leur valeur a augmenté depuis qu'on les a fait tirer. Hein.
D'ailleurs, il va falloir qu'on se parle du shipping, Sylvain.
Oui.
ça n'a pas été réglé encore. Donc, voilà pour le show de cette semaine du 26 août 2020. C'est notre dernier show régulier, à moins qu'il arrive de quoi, genre Johnny Gaudreau qui débarque à Montréal. Normalement, on prend une pause pour quelques temps avant le retour du hockey pour le Canadien, là, des actualités qui impliquent le Canadien. On va prendre une pause. Il y aura encore un peu de contenu pour les Patreons, mais vraiment, on va ralentir les activités pour notre pause estivale, automnale slash presque hivernale. Donc, gros merci à tous d'avoir été du rendez-vous. Merci Nicolas, merci Eduardo et merci Sylvain. C'était HB Gagné, votre animateur. Et je vous dis à la prochaine pour un autre épisode de la POC. Bye bye!